Donc si je reviens au titre ou au thème « Pourquoi l'homme veut-il, ou l'être humain, veut-il la paix et fait la guerre ?» La réponse que la plupart du monde donnerait à cette interrogation, c'est de dire « Mais voilà, parce que l'homme est égoïste et agressif de nature, c'est-à-dire l'homme est un profiteur, il est égoïste. S'il peut avoir un avantage sur ses amis ou sur sur les autres, il va sûrement le prendre. Son propre bien-être est menacé ou s'il perçoit que son propre bien-être est menacé, alors il va lutter, il va devenir agressif. Et il est donc, ça c'est inné, ça c'est la nature humaine, c'est d'être agressif, d'être égoïste. Et comme on dit souvent, la nature humaine ne changera jamais, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Alors, il y a maintenant beaucoup d'évidence enfin scientifique et aussi beaucoup de pensées religieuses qui affirment cette vision de l'être humain. Je voulais d'abord parler de quelques-unes de ces évidences et puis ensuite on s'attaquera à la question, alors si l'homme n'est pas naturellement agressif et égoïste, alors pourquoi quand même est-ce que il fait tellement souvent la guerre, c'est-à-dire. Donc, faisons attention quand même au point suivant. Il n'est pas question que l'homme soit capable d'être agressif et égoïste. Ça, nous savons tous. Mais la thèse qui est reçue et qui est généralement répandue partout, c'est que l'homme est naturellement agressif et égoïste. C'est-à-dire que c'est la nature innée de l'homme d'être égoïste et agressif. Alors, comment est-ce qu'on pourrait donc expliquer l'agressivité et l'égoïsme si l'homme n'est pas naturellement comme ça? Eh bien, ça serait des comportements appris dans certaines situations. Il y a certaines circonstances où l'homme apprend à être agressif et apprend à être égoïste. Et que ça ne serait pas plus la nature humaine que d'autres choses, n'est-ce pas? Et on peut examiner rationnellement un peu l'origine de ces circonstances qui font que l'homme devient agressif. Alors, d'abord, les anthropologues tels Richard Leakey disent que la propension à la coopération a plus fait que l'agressivité dans, et même l'intelligence dans l'histoire de l'humanité. Il a remarqué que les êtres humains, du point de vue physique, sont plus intelligents que les autres espèces, mais pas plus forts. C'est-à-dire, le tigre court plus fort, le gorille est physiquement plus fort, etc., etc., etc. Donc, l'homme a survécu en compétition avec des espèces qui sont uniformément plus forts, plus vite que lui. Alors, comment est-ce que ça a pu arriver? C'est-à-dire, selon la thèse habituelle de sélection naturelle, l'homme aurait dû être éliminé par tous ses compétiteurs, qui ont simplement bouffé tous les êtres humains. Alors, Leakey termine la thèse que c'est la coopération qui fait ça. Que c'était la capacité de l'homme à coopérer, à former la société, et qui a permis à l'homme de survivre. Et puis, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais il amasse un certain nombre de faits et d'évidence pour supporter cette thèse. Et il continue en disant que c'est généralement la coopération et la capacité de coopération qui a, à chaque moment critique de l'histoire, fait avancer l'être humain. Et donc, si l'homme était naturellement agressif et égoïste, si ça c'était sa nature, il ne serait tout simplement pas capable de cette solidarité et cette coopération dont il a fait mente beaucoup de fois dans l'histoire. Enfin, qu'on étudie les histoires, enfin, l'origine de l'islam, l'origine de la foi chrétienne, enfin, toutes les époques où les hommes ont montré une très grande solidarité, etc., d'entraide et tout ce que vous voulez. Donc, l'homme n'est pas de nature égoïste, agressif, mais il a le potentiel d'être agressif. Qu'est-ce qui fait qu'il passe à l'agression? Qu'est-ce qui fait que l'homme choisit, si vous voulez, parce qu'il s'agit d'un choix, qu'est-ce qui fait que l'homme choisit l'agression et la recherche de la dominance plutôt que la coopération? Moi, je pense que le schéma de pensée est assez simple. Nous voulons tous être heureux et nous savons que pour être heureux, il faut satisfaire à nos besoins. Et nous arrivons à nous dire, mais voilà, plus que j'ai de pouvoir sur les autres, mieux je serai capable de satisfaire à mes besoins. Alors, donc, je me mets à la recherche du pouvoir et tout ce qui accroît mon pouvoir doit amener à un plus grand bonheur parce que plus que j'ai de pouvoir, plus que je vais pouvoir contrôler les autres et les forcer à donner ce que je veux, à satisfaire à mes besoins. Donc, c'est au nom de la bonheur que l'homme recherche le pouvoir. Et la recherche mutuelle de pouvoir, mais ça mène forcément au conflit. Parce que dans la recherche du pouvoir, il peut ne pas avoir de gagnant, mais il ne peut jamais avoir plus d'un seul gagnant. Ça, c'est sûr et certain. Alors, la recherche du pouvoir mène nécessairement au conflit. Et peut-être les hommes plus tard disent, mais peut-être on a mal fait de chercher le pouvoir dans ce cas-là. Mais souvent c'est trop tard, n'est-ce pas? C'est trop tard pour corriger la leçon. Abdu'l-Bahá donne l'exemple d'Alexandre de Macédon, qui était l'élève d'Aristote. Et Alexandre, il était même le protégé d'Aristote. Et voilà, ce grand philosophe Aristote a voulu inculquer à Alexandre, enfin, toutes les leçons d'éthique et tout ça qu'il avait apprises. Qu'est-ce qu'a fait Alexandre? Eh bien, à l'âge de 21 ans, il a assemblé une armée, il a conquis tout le monde connu de l'époque. Et l'histoire nous dit qu'il avait demandé à ses généraux, alors, où est-ce qu'on va maintenant? Ils disent, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, mais est-ce qu'il a d'autres pays à conquérir? Il dit, non, vous avez tout conquis. Et on dit, enfin, qu'à l'âge de 23 ans, il a pleuré sa peine parce qu'il n'avait plus un monde à conquérir, n'est-ce pas? Ses successeurs étaient ses trois fils qui se sont bataillés entre eux, et dans une génération, il ne restait rien du tout de l'œuvre d'Alexandre de Macédon. Absolument rien du tout. C'est un exemple, enfin, qui vient de l'histoire, bien entendu, mais qui est cité par Abdu'l-Bahá dans un de ses livres, enfin, Le secret de la civilisation divine. Donc, les conséquences négatives de la recherche du pouvoir dans le passé étaient souvent différées au point où les auteurs de l'agression ne subissaient pas le retour. C'était les générations futures qui subissaient le retour de l'agressivité. Et donc, les hommes pouvaient maintenir l'illusion qu'on pouvait s'imposer sur les autres par la force et l'agression sans avoir des retours négatifs. C'est-à-dire, parce que les retours négatifs, qui je crois sont inévitables, venaient quand même plus tard, n'est-ce pas, peut-être quelques générations plus tard, etc. Mais on peut aller plus loin encore. On peut montrer tout simplement qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir le bonheur par la recherche du pouvoir, d'aucune façon. Et ça, c'est parce que la chose qui donne le plus de bonheur, c'est l'amour. Et l'amour n'est pas sujet au pouvoir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas contraindre l'amour, vous ne pouvez pas forcer l'amour, vous ne pouvez pas vous forcer à aimer. Et vous, certainement, vous ne pouvez pas forcer une autre personne à vous aimer, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas. Donc, si j'avais un pouvoir absolu sur vous, vous êtes mon esclave, je peux vous briser, vous pouvez faire n'importe quoi, mais je ne peux pas faire que vous m'aimiez. Puisque j'exerce mon pouvoir sur vous, moins vous êtes enclin à m'aimer, n'est-ce pas? Donc, l'amour est la seule chose que le pouvoir ne peut jamais obtenir. Aucune dose de pouvoir ne peut obtenir l'amour. Et l'amour, comme j'ai souvent dit, est la seule transaction entre les êtres humains qui est expérimentée de façon positive et par celui qui aime et celui qui est aimé, n'est-ce pas? Donc, l'amour mutuel mène à quoi? À la collaboration. Exactement, pas au conflit, mais à la collaboration, à la solidarité. Donc, le vrai chemin de bonheur, le vrai bonheur, se trouve dans le respect, l'amour mutuel et la coopération. Et ça a été toujours le cas, mais tout au travers de l'histoire, l'homme a pu maintenir l'illusion que la recherche du pouvoir était nécessaire pour le bonheur. Et donc, génération après génération, il y avait des guerres, des batailles, des carnages, au nom, enfin, que les gens jugeaient inévitables, parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit souvent, pourquoi vous avez fait la guerre? Parce que j'étais obligé, n'est-ce pas? On m'a attaqué, ou, etc. J'étais menacé, ou mes intérêts étaient compromis, etc. Je ne pouvais rien faire d'autre que faire la guerre, n'est-ce pas? Alors, on n'est jamais responsable de la guerre. On fait la guerre continuellement, mais on n'en est jamais responsable. C'est toujours la faute des circonstances, des autres, etc., etc. Alors, donc, c'est la justification idéologique qui justifie moralement que l'homme fait la guerre tout en souffrant de la guerre. Parce que là, je viens au thème de départ. Si vous demandez des êtres humains un à un, voulez-vous la paix? Est-ce que vous aimez les guerres et les tensions et les conflits dans les relations humaines? Ou est-ce que vous aimerez la paix et l'harmonie et la coopération? Tout le monde va dire, mais bien sûr, j'aimerais avoir la coopération et la paix et tout ça. Mais ce n'est pas possible, c'est utopique, n'est-ce pas? C'est utopique. Alors, tout le monde dit vouloir la paix et les mêmes moments disent que la paix n'est pas possible. Alors, pourquoi est-ce qu'une chose que tout être humain veut n'est pas possible? Ça revient à dire que l'homme n'a pas de volonté libre du tout, n'est-ce pas? Si tout le monde voulait voler, on pourrait dire, mais voilà, c'est pas possible, parce que l'homme n'est pas capable de voler, enfin, sans l'aide des machines et tout ça. Alors, mais la paix est possible, parce qu'on a eu la paix à différents moments de l'histoire, c'est-à-dire, l'homme est libre de choisir la paix, tout le monde dit qu'ils veulent la paix, mais ils disent que ce n'est pas possible. Alors on voit tout de suite que ça c'est faux, c'est sûrement possible d'avoir la paix. Et d'ailleurs, il y a une contradiction fondamentale dans cette notion que l'homme est naturellement égoïste et agressif, parce que pensons à la chose suivante. Si l'homme était dans sa nature à ce point-là agressif, pourquoi est-ce qu'il en souffre tellement? Allez demander au tigre qui vient de déchirer une proie et la manger, n'est-ce pas? Demandez au tigre, est-ce que vous souffrez de votre agressivité? Non, il en jouit. Il adore ça, il est fait pour ça. Il n'y a rien qu'il aime mieux que ça. Prendre quelque chose, la manger, la déchirer avec ses griffes, etc. C'est la nature du tigre. Alors, si la nature de l'homme était agressif comme le tigre, pourquoi est-ce que l'homme souffre tellement du fait de l'agression? Pourquoi est-ce qu'il n'en jouit pas de l'agression? Donc, on voit que, en résumé, que l'homme a la possibilité de faire la paix, il peut faire le choix de renoncer à la recherche de pouvoir, de choisir l'entraide et l'amitié et la coopération et l'harmonie, mais il a choisi plutôt, ou très souvent, trop souvent, de maintenir l'illusion que l'agressivité et la recherche de pouvoir mènent à un bonheur d'une façon plus vite que la coopération, n'est-ce pas? Qui n'a pas de conséquences négatives, oui. Ok. Donc, en quelque sorte, c'est en croyant à cette illusion, on peut dire en quelque sorte que c'est la paresse, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le chemin de moins de résistance. Si vous avez quelque chose que je veux, et je crois avoir un peu plus de pouvoir que vous, ben, on pourrait peut-être le partager, je pourrais entrer dans une relation avec vous, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre de l'énergie. Puisque je suis plus fort, je peux simplement vous le prendre. C'est plus facile, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, on peut voir la guerre et l'agressivité même comme une sorte de laisser-aller, une sorte de paresse, une sorte de refus de prendre l'énergie, de diriger l'énergie dans une direction qui conduirait à un bonheur plus stable, plus durable et plus vrai, n'est-ce pas? Et je dis encore une fois, ça c'est parce que les gens, au moment que je vous prends la chose parce que vous avez peur de ne pas me le donner, je crois avoir gagné, je crois avoir atteint mon but sans conséquences négatives, parce que je sais que vous avez trop peur de me faire quelque chose. Mais ce que ça entraîne, c'est évidemment tout un tas d'états intérieurs en moi-même. Ça a toutes sortes de conséquences négatives intérieures et extérieures qui, finalement, sont toujours plus graves, plus grandes, plus importantes que ce qu'on croit avoir gagné. Et je pense que dans l'époque actuelle, nous voyons la chose. C'est-à-dire maintenant, l'absurdité de la guerre devient évidente à cause de la technique et la proximité, la contraction du monde dans son voisinage. Alors, cela devient évident. C'est-à-dire, les gens assistent, par exemple, en Irlande du Nord, aux catholiques et protestants qui se sentent tout. Pourquoi? Ils ne savent même pas pourquoi ils sentent tout, n'est-ce pas? La même chose entre les Palestiniens et les Israéliens, par exemple. Enfin, évidemment, il a des causes au départ, mais je vous assure que les gens qui, au moment qu'ils vont faire sauter un endroit, enfin, et tout ça, ils ne pensent plus aux raisons pourquoi j'ai fait ça, c'est simplement par pure haine qu'on pose ce geste, n'est-ce pas? Donc, on est déjà au bout d'un processus où la réflexion, c'est déjà très loin dans le passé. Donc, je conclue tout simplement en disant, d'abord, il est possible pour l'homme de choisir la paix, parce qu'il n'est pas contraint par sa nature à faire la guerre, à être agressif, à être égoïste. Il a en lui une nature qui lui permet d'être aimant, coopératif, solidaire avec les autres. Mais il doit faire des choix qui font que ces conditions de coopération prévalent dans la société. Et comment est-ce que ça pourrait venir? Ça pourrait venir essentiellement de deux façons. Soit par un acte de volonté politique, c'est-à-dire que les gens disent « mais c'est assez, assez, c'est assez, on veut arrêter ça », ou bien simplement par épuisement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les gens finalement s'épuise tellement à tel point qu'ils ne, pour ainsi dire, ne peuvent plus faire la guerre, il n'a plus de raison. Par exemple, juste un cas, quand j'étais en Russie, ma femme et moi avons passé quelques années en Russie, comme vous savez, quand je suis allé en 1990 en Russie, la première fois, c'était pendant la période de Perestroïka et tout ça. Puis j'ai parlé avec beaucoup d'intellectuels russes et ils disaient tous, « Ah, je pense qu'il va y avoir une guerre civile. Il va y avoir une guerre civile en Russie. » Parce que tout est chambardé et puis etc. J'ai dit, « Mais qui va batailler contre qui ?» Il dit, mais les gens ont faim, les gens ont faim, les gens ont assez. J'ai dit, mais est-ce que les Russes croient qu'en faisant la guerre, ils vont mieux manger? Et en faisant la guerre contre d'autres personnes qui sont aussi pauvres qu'eux? Comment est-ce que ça va? Si vous avez faim, moi j'ai faim et je vous tue. Est-ce que, si je ne suis pas prêt à vous manger, qu'est-ce que ça va me faire, n'est-ce pas? Alors, effectivement, j'avais raison, c'est-à-dire il s'est passé toutes sortes de choses en Russie qui, dans n'importe quel autre pays, auraient sûrement déclenché une guerre civile, n'est-ce pas? Ne pensez qu'au bombardement du Parlement russe par le président Yeltsin, n'est-ce pas? La Maison Blanche russe, vous vous souvenez de ça? Qu'il avait des parlementaires qui se sont révoltés, qui se sont enfermés dans le Parlement, qui sont attaqués à Ostankino, qui était un grand poste de télévision d'État. Et donc, qu'est-ce que Yeltsin a fait? Il a envoyé des chars d'assaut, ils ont bombardé le Parlement, sorti ces personnes. Alors, et puis, les Russes promenaient leurs chiens, les métaux marchaient, ils disaient, voilà, on est en train de bombarder le Parlement. Je vous jure que c'était passé comme ça. J'étais à Moscou 2 jours après ça, et puis il y avait encore de fumée qui sortait des fenêtres et tout ça. Les gens faisaient la vie comme s'il n'y avait rien été, n'est-ce pas? Mais si on s'est passé à Ottawa ou aux États-Unis, ben ça serait sûrement la guerre civile, n'est-ce pas? Alors, tout ça pour dire que l'absurdité de la guerre devient de plus en plus évidente. Et on peut espérer que ça crée un certain élan, une certaine volonté générale chez les gens de à ce moment de ne plus faire la guerre, mais de participer dans un processus qui va finalement miner la volonté des chefs d'État et des dictateurs et des manipulateurs à faire la guerre. Alors je pense que je vais arrêter là et nous pouvons échanger.